Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française. Pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les célimènes de la critique, j'ai nommé Armelita Armel, Elio du Figaroscope, avec une toute nouvelle que je suis ravi d'accueillir ici, qui est Fabienne Darge du Monde, qui nous retrouvera régulièrement dans ce masque et la plume théâtre. Bienvenue au club. Vous verrez, c'est très sympa, très amusant, parfois un peu violent. Je ne suis pas convaincu que vous rentrerez chaque fois après l'émission avec vos consoeurs et confrères, mais enfin, ça arrive. Avec l'autre Fabienne, ça va être difficile pour moi d'animer cette émission. Ou alors, on peut faire comme chez Nathalie Sarraute, Fabienne 1, Fabienne 2. Fabienne Pascot de Télérama. Et avec notre Alceste Bougon, que vous connaissez tous, qui est Jacques Nerson de l'Obs, pour parler ce soir de deux pièces de Feydeau, d'une de Molière, qui est évidemment Le Misanthrope, d'une pièce de Shakespeare, mais également de Pallas, de Rouge, et du dernier spectacle de Macha Makeyev. Et je suis très heureux d'accueillir, notamment dans le public du théâtre de l'Alliance française, ce soir, les étudiants de l'USCPA formés en journalisme, en communication, en production, et leur directeur Emmanuel Carré. Bienvenue ce soir au théâtre de l'Alliance française. Dans le courrier de la semaine, j'allais dire de la saison, parce que avec les critiques de théâtre, on ne s'est pas revu depuis le Festival d'Avignon, eh bien Bernadette Suchaud de Grenoble revient sur Architecture de Pascal Rambert, qu'on avait vu dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon au Palais des Papes, pièce qui est en tournée cet automne à Rennes, à Strasbourg, et qui sera en décembre au Bouffe du Nord. Il faut être un peu maso et accro au théâtre, nous dit Bernadette Suchaud, pour avoir envie de revoir en replay sur un petit écran une pièce interminable et qu'on n'a pas beaucoup aimée. Eh bien, l'expérience est concluante en plusieurs fois. En faisant des pauses, on découvre que cette pièce a des richesses de textes et des fulgurances de comédiens qui m'avaient échappé. Voir par exemple Jacques Weber pleurer pendant le monologue déchirant de Stanislas Nordet, ça donne des frissons, alors que de loin on ne devinait même pas s'il était ému ou sarcastique. Oui, la cour du Palais des Papes est un endroit fabuleux, mais cette pièce, avec une bonne heure de moins sur un plateau plus petit, aurait pu être très bonne et emporter le spectateur dans une empathie qui malheureusement a fait défaut. Quant à Jérôme Blétra, qui revient sur Nous l'Europe, qu'on n'avait pas beaucoup aimé, de Laurent Godet, qui est en tournée cet automne aussi à Amiens, à Perpignan, à Grenoble. Et il nous dit « Vos critiques ont fait assaut ou d'aveuglement ou de bêtises ». Les deux sont pas d'ailleurs incompatibles. Le personnage de la chargée d'accueil des demandeurs d'asile n'est absolument pas caricatural. C'est une femme à bout de nerfs, obligée de refuser l'asile aux demandeurs, car telle est la politique actuelle de l'Europe. Une politique indigne que la pièce dénonce en mettant en regard les drames de l'histoire européenne. C'est son sens et c'est sa raison d'être. Ce que vous n'aviez pas vu les uns, évidemment, et les autres. Anjali, qui habite New Delhi et qui était à Avignon, qui est toute jeune, nous écrit « L'art et l'amour sont toujours vainqueurs. Mon frère, 12 ans, et moi, 10 ans, avons vraiment beaucoup aimé L'amour vainqueur d'Olivier Py. Les quatre comédiens, les passages de la musique à la scène, les accessoires, l'histoire, les chants et la musique, c'était notre première expérience au Festival d'Avignon et elle fut belle. Et ce spectacle d'Olivier Py est en tournée à Bayonne et à Pau cet automne. Sinon, il y a Agnès Courboudet qui nous signale la dernière mise en scène de Clément Poiré à La Tempête, dans le frigo, d'après copie que vous n'avez pas vu les uns ou les autres. Le spectateur est invité à ressentir et à réfléchir en imaginant ce que pourrait contenir le fameux frigo, trouvaille de mise en scène et performance d'acteur. Et c'est jusqu'au 18 octobre, enfin, Pierre Cusor a vu Le Malade imaginaire de Molière par la troupe du Français au TGP de Saint-Denis dans une mise en scène un peu trop sage, nous dit-il, de Claude Stratz avec Guillaume Gallienne. Les volets sont fermés, on vit dans l'obscurité. Le seul rayon de lumière et d'intelligence est Toinette. Julie Sicard est géniale, mais quelle idée de remplacer la très drôle et belle musique de Charpentier par des pièces inintéressantes. Clavecin pour clavecin, autant garder Charpentier. Ce Malade, qui a une nouvelle distribution, est en tournée actuellement et on en parlera dans le prochain Masque et la Plume Théâtre. Vous avez envie de revenir sur Avignon les uns ou les autres, non ?
Non, mais moi je maintiens que la dame qui examine les dossiers de demandeurs d'asile, elle n'est pas à bout de nerfs et énervée. Elle est dessinée vraiment d'une façon extrêmement méchante. Et puis, donc chacun son interprétation.
Et on commence avec deux pièces de Feydeau qui se partagent pour la rentrée, au même moment, le privé et le subventionné. Et d'abord, La Dame de chez Maxime à la Porte Saint-Martin, mise en scène par Zabou Breitman avec Léa Drucker. Franchement, que je n'imaginais pas dans ce rôle explosif de la môme crevette, mais on va y revenir. Laquelle provoque un véritable séisme, vous le savez, dans la famille du docteur Petitpont, qui est joué par le longiligne Michel Esco. Les cheveux totalement en pétard, je ne sais pas s'il avait foutu ses doigts dans une prise, mais il y avait un problème. De sa femme Gabrielle, excellente selon moi, Anne Rodger, dans un rôle plutôt ingrat. De son oncle général, c'est André Marcon, distribution à laquelle il faut ajouter Christophe Paou en Mongicourt, Reinhard Wagner qui joue une duchesse et qui signe la musique, Éric Prat, Philippe Collier, Sol Alfort, etc. Première partie dans un décor de Guingois qui se déroule à Paris, où Petitpont essaye de cacher la nuit qu'il a passée avec la môme crevette. Et la seconde, dans le château Tourangeau du général qui marie sa fille, l'occasion pour Zabou de faire jouer par des hommes, tous les rôles de femmes. C'est une chose d'ailleurs qu'on verra tout à l'heure dans une tragédie d'ailleurs. Ça dure 2h15 et si vous me permettez, j'ai trouvé Zabou plus inspirée quand elle avait monté le système ribadier du même Feydeau et c'était au Vieux Colombier. Fabienne Pascot.
Ah, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai trouvé que c'était un ratage, un peu, cette mise en scène, à part quelques excellents interprètes. Il y a Michel Esco qui joue Petitpont, sa femme, qui est censée être la laideur incarnée et dont il se moque avec une misogynie terrifiante de cruauté pendant tout le spectacle. C'est une comédienne qui vient de chez Joël Pommerat et elle est magnifique. Non, la pièce, c'est une des grandes pièces de Feydeau, longue, qui a été beaucoup coupée, un peu n'importe comment. Je trouve.
Et comment,
si, un peu n'importe comment, Jacques. Et finalement,
non, on le suit très bien.
Non, moi je ne l'ai pas suivi du tout parce qu'il me semble que Zabou Breitman part dans tous les sens. Alors la première partie avec l'intrusion de cette môme crevette qui nous permet de regarder la société de son temps, la bourgeoisie de son temps, puis après dans un deuxième acte la province petite bourgeoise ou aristocratique de son temps aussi.
C'est là où il fait jouer les
oui,
les
il
femmes
fait
par
jouer. On ne comprend pas pourquoi il y a des travestis. C'est ridicule. Il y a Dupont et Dupont de chez Tintin qui se baladent aussi là et qui viennent regarder le spectacle. Le spectacle décor après se termine tout en guingois. On se demande si c'est un cauchemar. Alors certes, tout est possible parce qu'il y a cette machine formidable qui arrive, une machine à créer, à faire endormir les gens. On sait que Feydeau a le sens de l'absurde et des situations un peu grotesques. Donc à partir de là, sans doute Zabou Breitman s'est dit qu'elle pouvait s'autoriser n'importe quoi, mais ça part vraiment partout. Et moi, je n'ai très très peu ri.
Pour cette pièce-là, c'est
pour
même...
Pour cette pièce-là, c'est quand même un record. Mais j'ai admiré le jeu de Michel Esco, André Marcon.
Moi, j'ai fait quelques grimaces même. Jacques.
Écoutez, il s'est passé quelque chose de particulier parce que les personnes qui ont assisté aux premières représentations sont toutes de votre avis. Laissez-moi quand même dire ce que j'ai à dire. Non, mais je constate... Comme vous, il y a la plupart de mes amis qui sont allés au début sont revenus dans des sentiments à peu près comme les vôtres. Et donc, moi-même, quand j'y suis allé, je traînais un peu des pieds. J'avais peur de m'ennuyer. Or, il s'est passé le contraire. Je peux pas vous dire que je me suis ennuyé pour vous rejoindre. Ça n'est pas vrai. J'ai ri. La salle riait. Autour de moi, tout le monde riait. Et j'ai passé une excellente soirée. Et cette pièce, qui est d'habitude souvent un peu trop longue, je l'ai trouvée très bien coupée.
Mais Jacques, les parties prises de mise en scène n'ont pas changé entre...
Je ne dis pas que... je ne dis pas que j'aime
à la
tout.
Mode,
je,
ça n'est pas non, non, non. Mais pourquoi
c'est
ça?
Pourquoi c'est tout simplement pour avoir probablement moins d'acteurs sur le plateau parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer plus d'acteurs, c'est tout. Bon. Bah c'est pas plus grave que ça. Mais l'important c'est que la pièce fonctionne bien et que les gens rient et c'est le cas. Et la pièce, je trouve assez rajeunie par Zabou Breitman. Elle y injecte une dose de gaieté, de vitamine. Je me suis énormément amusé. Je peux pas vous dire le contraire. Et ces comédiens, André Marcon et les autres, je les ai trouvés formidables.
Fabienne Darche, qu'en pense-t-elle?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Fabienne.
Merci Fabienne.
Et j'ai eu l'impression que Zabou Breitman avait eu du mal à choisir entre faire un spectacle un peu radical qui montrerait la noirceur de Fedot, le côté comme ça un peu grinçant, un peu ou sur la dépersonnalisation des personnages, et le fait qu'elle fasse la rentrée quand même dans un grand théâtre privé où elle doit quand même faire peut-être un spectacle un peu consensuel. Et j'ai eu l'impression que ça tirait effectivement dans des sens contraires et que du coup, ça ne marche pas, malgré des acteurs que j'adore, moi. Alors là, Michel Escaut, je trouve qu'en plus, il pourrait être absolument fait pour ça. Et
d'ailleurs, il était autrement mieux dans le Tartuffe.
Et d'ailleurs, il est formidable malgré tout. Il arrive quand même, il a son sens du burlesque avec son physique comme ça, qui joue avec ses grands bras, ses grandes mains. Anne Roger, alors là, est
magnifique.
Une actrice tout à fait étonnante. Je trouve que c'est celle qui arrive le plus justement à s'approcher peut-être de ce qui était peut-être le parti pris de départ, de quelque chose comme ça qui vous emmène dans des trucs un peu insondables où on ne sait plus qui on est. Mais l'ensemble de la représentation, effectivement, je trouve ne marche pas. Moi, j'ai très peu ri aussi, alors qu'on y viendra peut-être après. J'ai beaucoup ri au Fedot de la Comédie Française. Voilà.
Armelita.
Oui, c'est étrange. Elle a beaucoup taillé, puisque ça dure 3 heures normalement, et là, ça dure 2h10, 2h15.
Qui paraissent 3 heures.
Oui, c'est ça qui est très étrange. C'est vrai. Elle a beaucoup coupé à la fin de la pièce les scènes du fauteuil extatique que moi j'adore, qui sont d'habitude beaucoup plus longues. Et puis surtout, le reproche que je lui fais, je comprends, elle tire un peu Fedot par moment vers Tex Avery, elle demande à Michel Escaut de casser son grand corps comme un personnage de dessin animé. Les autres, on n'est pas sûr qu'elle les dirige. Il y en a un qui est absolument exceptionnel parce que justement, il ne fait rien. Il joue juste sincèrement avec un sérieux extraordinaire. C'est André Marcon dans Le Général. Il est extraordinaire parce qu'il fait confiance à Fedot, lui. Il est sincère. Alors que les autres, on a l'impression qu'ils cherchent quelque chose.
Vous le verrez bientôt dans un tout petit rôle, mais très essentiel, dans le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus.
Ah oui, je sais qu'il a joué là. J'ai pas vu le film.
Et Léa Drucker n'est pas une exceptionnelle.
Voilà, alors elle manque de vulgarité.
Mais c'est pas la
parce que la môme, elle est un petit peu
elle
vulgaire.
Elle n'a même pas levé la jambe.
Elle est un petit peu. C'est une crapule de femme. Elle est coquine.
C'est tout à fait une oseille et c'est tout à fait ce qu'il faut.
Léa Drucker, c'est une excellente actrice,
c'est
ce genre de personnage.
Mais c'est pas du tout le rôle.
Mais c'est une actrice qui est très bonne dans le registre de l'intériorité, toujours Léa Drucker.
Elle peut aussi jouer.
Elle est très. Moi, je voudrais quand même revenir à la scène des barbus. Là, c'est complètement ridicule. Il y a assez d'argent au Théâtre de Paris pour avoir quelques.
D'abord, c'est pas au Théâtre de Paris. Et en plus, on n'a pas juger de leurs finances.
Mais si, mais non, puisque vous avez dit
c'est une œuvre ressemblante.
C'est vous qui avez dit, Jacques, vous aviez de le dire.
Vous en acceptez tellement d'autres pour
mais,
d'autres
mais
spectacles.
Mais qui sont motivés, qui ont un sens, là, ça
mais
n'a
non, mais
aucun
c'est une des
sens.
Plus belles scènes de la pièce.
Je ne vous dis pas que c'est génial, je dis que ça n'a aucun intérêt particulier, mais ni négatif, ni positif.
Ça n'a aucun intérêt, c'est moche. Alors que justement, cette scène-là, je ne vous demande pas de vous souvenir de quand c'était à la Comédie Française il y a 30 ans.
Mais je m'en souviens très bien.
Et tout ça, c'était ce bal des pas. Femmes de province
à la création, c'était merveilleux.
Dont ils
moi, je
ne
me
se moquent pas. Mais non, mais parce qu'elles sont
à la Comédie Française.
La mise en scène de Roussillon était excellente.
Quand la môme crevette leur apprend à faire et aller donc, c'est pas mon père, ça devient extraordinaire parce que ce sont des femmes merveilleusement désireuses de s'émanciper un petit peu. Et donc, ça devient une des scènes, mais c'est l'ombilique de la pièce, en fait, cette scène-là. Et là, elle est complètement absente. C'est vraiment dommage.
La dame de chez Maxime, conseillée par Jacques, c'est donc à la Porte Saint-Martin.
Vivement conseillée.
L'autre, mais ça on l'avait compris, hein. C'est pas la peine de crier. L'autre Fedot, C'est La Puce à l'oreille, vaudeville mise en scène par la Suissesse Lille Aubord. C'est à la Comédie Française, salle Richelieu, où elle avait monté. C'était d'ailleurs très intéressant, je trouve, en 2015, la maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca. Ici, c'est l'hôtel du Minet-Galant, d'où a été envoyé un colis à Monsieur Chantebise que sa femme Raymond a ouvert par mégarde et qui contient des bretelles, comme celles que porte souvent Nerson. Convaincue d'être trompée, elle donne rendez-vous à son mari dans cet hôtel, mais sous un nom d'emprunt, et Lille Aubord entraîne dans ce Minet Galant toute la troupe du Français. Je peux pas tous les citer, dont Thierry Ancy, Cécile Brune, Alexandre Pavlov, Serge Bagdasarian, Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez, Sébastien Poudrou et Anna Servinka. Ça se joue jusqu'au 23 février. Et je signale d'ores et déjà à nos auditeurs qu'une captation en direct de la pièce aura lieu. C'est une bonne initiative dans les cinémas pâtés. Ce sera le 17 octobre et ce sera à 20h15. Et après, il y aura des rediffusions. Mais le direct aura lieu dans ces cinémas le 23 février au soir. Armelita, cette puce à l'oreille.
Bien là, on rit au moins. Ah oui. Alors moi, j'ai eu une émotion au début parce que j'ai cru que je m'étais trompée de salle, parce que le décor de La Puce à l'oreille, qui est censé se passer au mois de juin à Paris, nous sommes dans un grand chalet très cossu, dans la neige, et c'est exactement le décor de La Souricière d'Agatha Christie, qui se passe à Noël dans la neige. Et je ne sais pas pourquoi elle est allée chercher cette idée-là.
Parce que ça l'amusait, c'est
parce qu'elle est suisse.
Elle en tire de très bons effets.
Elle est née à cette époque-là, et encore lui rappelle l'appartement
parce qu'elle
de ses
est suisse,
parents.
Oui, bien sûr.
Elle aime la neige.
Elle est suisse, elle aime la neige. Bon, enfin bref.
Mais il n'y a pas de Toblerone sur les tables.
C'est très joli, c'est magnifique, c'est très...
C'est drôle, surtout.
Et puis c'est années 60, les costumes sont années 50-60. Donc ça donne des costumes très jolis, en particulier pour les deux femmes qui sont au cœur du spectacle, Anna Servinka et Pauline Clément, que l'on découvre vraiment dans tous ses talents modernes, parce qu'elle a plutôt à jouer des... Jusqu'à présent, elle avait plutôt joué des choses un peu classiques et tout, on la voyait pas vraiment. C'est formidable. Et là, franchement, on rit de très bon cœur. Il y a un rythme. Alors, autant, je disais pour Zabou, c'était un petit peu Tex Avery, là, c'est un petit peu les Branquignoles.
Hein, oui, mais sans être forcé.
Non, sans être forcé. Dans l'élan... Dans l'élan de Fedot. Et c'est ça qui est formidable. Et la troupe, la jeune troupe, comme les aînés, parmi les aînés, vous les avez cités, Thierry, Ancy, Cécile Brune. Mais c'est surtout la jeune troupe qui travaille. Alexandre Pavlov aussi, qui est là depuis un certain temps et qui est absolument extraordinaire en médecin.
Absolument, oui.
Obsédé. Et ça, c'est vraiment un spectacle.
Puis alors, pour tout public, hein.
Merveilleux, oui, tout le monde.
Fabienne Darge.
Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était un régal. C'est joué de manière éblouissante, ça c'est absolument certain. Et c'est vrai qu'elle a réussi à décaler, pour le coup, à moderniser la mise en scène, mais de manière assez douce, sans que ce soit un geste de mise en scène, qui se pose de manière un peu prétentieuse. Mais c'est d'une finesse, d'une légèreté, enfin, comme la neige qui tombe, et là, la cascade de quiproquos, de chassés-croisés, etc., est menée avec un sens du burlesque, alors là, quand même extraordinaire. Là, c'est plus, moi je trouve qu'on est plus entre Tati et Tintin.
Oui, c'est vrai.
Voilà, il y a un côté Tintin par moment, mais qui est très très bien joué, notamment par Jérémy Lopez, qui joue l'Hidalgo jaloux.
À accent.
Avec l'accent espagnol, mais ce qui fait qu'il en arrive à dire des trucs. Je vais te touiller. Alors, te touiller, au début, on se dit que c'est quoi touiller? C'est je vais te tuer. Mais ça paraît bête dit comme ça, mais il est irrésistible. Il fait mourir de rire la salle. Tous sont, les deux filles, effectivement, Anna Servinka et Pauline Clément, sont merveilleuses. C'est vraiment, elles sont dans des registres, effectivement, dans lesquels on les avait pas vues. Et elles emballent ça d'une manière, c'est un délice. Voilà.
Fabienne Pasco.
Moi, je partage pas votre enthousiasme. C'est vrai que la troupe, elle est magnifique. Elle est débordante de vitalité, d'imagination, de vivacité. Ça file, ça court. Mais alors, pourquoi dans ce décor, pourquoi à cette époque.
Moi, mais pendant c'est pas tout,
mais c'est joli les chalets.
Moi, je me suis posé la question tout le temps. Ça m'a un peu gâché mon plaisir.
Vous voulez pas sortir de son époque.
C'est-à-dire le vaudeville est un peu écrabouillé quand même. Le genre vaudeville.
Voilà, moi j'y ai perdu un peu de mon plaisir. Il fallait presque que je ferme les yeux parce que il y a une telle vanité dans le fait de mettre ça dans un chalet.
Il
n'y
a aucune vanité. Il
n'y
a aucune prétention.
C'est vouloir être moderne, vouloir changer, vouloir faire une mise en scène, vouloir avoir une idée. Moi, ça m'a un peu gênée, franchement.
Je pense que Fabienne Darge a raison. Il n'y avait aucune prétention dans cette transposition. Aucune.
Je ne crois pas, franchement.
C'est assez léger. Vous avez parlé de douceur et vous avez raison.
So what? Enfin, bref, quoi. Mais à part ça, la troupe est formidable, est éblouissante.
Bah, so what, quand même. Moi, je trouve que, mine de rien, justement, en jouant la pièce, quand même, pour le coup...
Ça révèle les faiblesses de la pièce, qui n'est pas la dame de chez Maxime, quand même. Hein. Bah... La puce à l'oreille, c'est vraiment en dessous.
Moi, j'ai trouvé que, du coup, se dégageait quand même quelque chose, mais sans jamais peser, sans jamais imposer, quand même, sur les rapports de force entre maître et serviteur, et entre hommes et femmes. Je trouve que les scènes...
C'est plus fort dans La Dame de chez Maxime, quand même. Puis
oui, mais c'est plus fort dans cette mise en scène-là. Alors, les scènes de séduction des femmes, notamment dans le fameux hôtel, sont quand même, mine de rien, terribles. Oui. Les hommes sont quand même montrés comme des sortes de prédateurs qui...
Mais c'est pas génial, quand même.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les hommes soient des prédateurs, parce qu'en l'occurrence, dans les deux pièces, tout part d'un mari innocent et qui est...
Comment ça?
Ben oui, il est tout à fait innocent.
Oui, Bagdasarian, il est totalement innocent.
Bagdasarian est totalement innocent.
Il est de la dame de chez Maxime.
Ben là aussi, il n'a pas couché avec la môme crevette. Le type, il est rentré.
Qu'est-ce que t'en sais?
Mais je suis désolé, c'est dit dans la pièce.
Il est rentré
dans un tel état qu'il était incapable de faire quoi que ce soit.
Exactement, je suis d'accord avec Jacques.
Bon, donc il y a deux maris accusés à tort.
Cette manière
donc,
de défendre
sont pas
les
des
hommes, quoi qu'ils fassent,
mais oui, Jacques. Là, je les défends. En tout cas, je ne veux pas opposer un spectacle à l'autre, parce que ce sont deux spectacles différents. Oui, d'accord, ils sont tous les
deux
fédos.
C'est deux fédos à la
ils sont très drôles.
Femmes,
ils sont très drôles l'un et l'autre.
Raison.
Et je rejoins les compliments sur la mise en scène de Lille au bord. Elle avait montré, avec le mariage de Gogol, notamment à quel point elle a le sens du burlesque. Et là, c'est irrésistible.
Mais ce qui n'était pas le cas du Garcia Lorca. Ce n'était pas dans le registre du burlesque.
Mais il y avait ça aussi un peu dans la tête des autres, qu'elle avait très bien monté. Mmh. Non, c'est une metteuse en scène très, 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 très passionnante. Et alors, les acteurs, mais c'est une merveille. Anna Servinka, rien que sa face, la petite danse qu'elle fait au moment où elle déplace les meubles, mais déjà, on rit. Lopez est formidable.
Et enfin, Alexandre Pavlov, effectivement.
La salle est en joie, vraiment. Qu'est-ce que ça fait plaisir.
Bon, c'est la puce à l'oreille, c'est aux Français. La salle Richelieu, elle va pas être en réfection. Il va pas y avoir de... On m'a dit qu'il y a...
Ils vont aller au château. Ils vont
à Marigny.
À partir de quand, ça?
À partir de mars 2020.
Janvier ou mars, oui.
Mais elle arrête pas d'être en réfection, cette salle.
C'est dingue, oui.
Donc là, pour l'instant, on peut encore aller salle Richelieu voir cette puce à l'oreille de Feydeau. Allez, Jules César, la tragédie de Shakespeare, publiée en 1623, qui fit l'ouverture, puisque Jacques y était, du Globe à Londres, raconte le retour triomphal à Rome de César, vainqueur de la guerre civile contre Pompée, et son assassinat fomenté par des sénateurs menés par Brutus. La pièce est adaptée et mise en scène au Vieux Colombier, dans un dispositif bifrontal par Rodolphe Dana, le directeur du Théâtre de l'Orient, et c'est avec une distribution paritaire qui pourra surprendre, puisque Martine Chevalier incarne Jules César, François Gillard est à la fois la femme de César et un sénateur conspirateur, Clotilde de Bézère, la passion de Jacques, devient Cassius, et Georgia Scaliette, Marc-Antoine, Nazim Boujna et Brutus, j'en oublie bien sûr, il y en a d'autres. Ce renversement des sexes, dit Rodolphe Dana, est un clin d'œil à Shakespeare et à son théâtre où les hommes jouaient tous les rôles. Et ça se joue pour le coup jusqu'au 3 novembre. Ce Jules César paritaire, notamment incarné pour le rôle-titre par Martine Chevalier. Jacques, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Écoutez, j'y suis allé avec beaucoup de crainte en apprenant ça.
Vous allez tout le temps au théâtre avec crainte, j'ai remarqué.
Mais
hein.
Oui. Mais oui, mais alors comme je suis une bonne nature, ben finalement j'ai
non,
passé,
vous êtes
j'ai
pas
passé
une bonne nature.
Bonne soirée. Mais si,
c'est ce que vous dites aux auditeurs, mais c'est pas vrai.
Faut croire que si, parce que j'ai passé quand même un moment plutôt agréable.
Qu'est-ce qui vous arrive
dans cette
pièce? Qu'est-ce qui vous arrive dans cette centrée-là?
Vous avez
pris des longues vacances.
J'ai pris de longues et bonnes vacances. Je suis en pleine forme. Je suis ravi. je suis ravi par le spectacle que je vois. Pas, non, pas tout.
Ça va se gâter après.
Mais ça va se gâter après. Mais là, la pièce est quand même passionnante. C'est une pièce politique géniale. Et donc, j'ai été
mais il a réduit à peu de choses quand même.
J'ai accepté ce parti pris. Ce parti pris qu'on a accepté, par exemple, pour Nouveau Roman de Christophe Honoré, où il y avait aussi des rôles d'hommes qui étaient tenus par des femmes. Moi, ça m'est égal si la pièce
c'est pas la même chose, hein,
est vraiment forte. Je sais que c'est pas la même chose. Je sais que Jules César n'est pas...
Hervé Guibert.
Pas une grosse robe
mais
jaune.
En attendant, ça ne m'a pas gêné. Le spectacle demeure fort. Je trouve pas la mise en scène géniale. Pareil. Ah. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'inventions et je me souviens de la mise en scène sublime de Déborah Warner qui était d'une force, d'une puissance extraordinaire. Ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même de très bons acteurs et encore une fois, une pièce géniale et le grand discours de Marc-Antoine demeure quand même un très grand moment de théâtre.
Bon, Fabienne Pascaud.
Moi, j'ai trouvé que c'était épouvantable, une catastrophe.
Alors, vos vacances ont été moins bonnes que les miennes.
Mais elles ont accru mon sens critique. Non, c'est vrai que la pièce est formidable. Hein. La pièce, elle raconte donc la mort. On voit les conjurés avant, on voit la mort, on voit les conjurés après. Et c'est rentrer dans la tête de ces conspirateurs qui tuent César pour des raisons diverses et variées, qui sont en proie aux remords, aux doutes. Tout ça, c'est politiquement très très fort. Et puis leur envie, déjà, que ça nous parle de démocratie. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la démocratie? Donc, ça a des tas d'échos.
Mais Fabienne, expliquez-moi ce que ça apporte de transformer ces rôles historiques.
Mais justement,
ça
n'apporte rien. Ça n'apporte rien.
Non, et mais voir ça ne retire Jules César, rien non plus.
Voir Jules César interprété au sommet de la gloire par cette pauvre Martine Chevalier qui ne sait pas pourquoi elle est là.
Monsieur, c'est très bien.
Les comédiennes Clotilde Bézère a rarement été aussi mauvaise, et Dieu sait que c'est une grande comédienne.
Elle n'est pas mauvaise.
Ils ne savent pas quoi faire de leur texte. Ils sont là, empruntés. Et alors, Brutus, moi je trouve qu'il est catastrophique, Nazim Boudjena. On ne voit pas bien.
Un homme, enfin.
Mais non, mais cette volonté, encore une fois, là, c'est l'île au bord, la troupe sauvait le spectacle. Mais là, cette volonté d'être originale, comme
à part ça, y a
comme Zabou-Bretman, de mettre des travestis,
on ne comprend, pas ce que ça apporte,
on ne comprend
ça,
rien.
Je
c'est inutile.
Ça n'apporte
c'est la seule idée
chose.
Qu'il a.
Mais en et même temps, ça n'empêche pas la pièce de fonctionner.
Et le bifrontal, ça apporte quoi
On l'a vu 100 fois, c'est pas nouveau.
Mais oui, mais c'est bon. Tout ça,
c'est devenu un
Fabienne
lieu
d'Arge.
Commun, si je puis dire, au Vieux Colombier. Parce que c'est bizarre, depuis quelque temps, au Théâtre
oui,
du Vieux Colombier, ils font du bifrontal systématiquement. Ce qui avait permis d'ailleurs de monter certains spectacles formidables, comme le Vania de Julie Deliquet.
Absolument, oui.
Mais là, on ne voit pas ce que ça apporte. En plus, tout le monde est à plat. Donc moi, j'étais coincée derrière un monsieur un peu grand, donc j'ai passé
mon temps... C'était Nerson.
C'était pas Jacques, mais bon, j'ai passé mon temps à
il est pas grand, c'est vrai en plus.
Voilà, et c'est vrai que je trouve que c'est du théâtre
surtout
pauvre.
Surtout mes cheveux qui sont pas gênants.
Mais pas au bon sens du terme. Le théâtre pauvre, ça peut être formidable. Ça, Peter Brook a raison de dire qu'il suffit qu'un acteur entre en scène pour que le théâtre soit là. Mais là, c'est pas le cas. Oui, j'ai trouvé ça très pauvre à tout point de vue. J'ai pas compris pourquoi il partait de la traduction de François-Victor Hugo, qui est une vieille traduction. Il y a eu depuis des traductions quand même plus contemporaines et formidables, comme celle d'Yves Bonnefoy, qui est merveilleuse. Alors, est-ce que c'est pour pouvoir la triturer, la remanier, etc. Mais c'est vrai que c'est très à plat, que du coup, certains acteurs, comme Nazim Boujna, essayent de donner de la force, une force qui manque,
pas.
Mais du coup, ils crient, et voilà. Mais une représentation qui n'a pas de force interne, elle décolle pas, et voilà. Mais moi, ça me gêne absolument pas, par ailleurs, que les conspirateurs soient joués par des femmes. Ça ne me gêne pas.
Mais il y a une utilité, une nécessité. Il faut qu'on sente qu'il
n'y a pas que les conspirateurs, hein. Il y a aussi César, il y a aussi...
Que les personnages d'hommes soient joués par des femmes ou l'inverse, moi, ne me gêne pas, on est au théâtre.
Dana s'en
explique. Toutes les conventions sont possibles, mais c'est juste que là...
Dana, il dit
qu'il y a un sens.
C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes politiques.
Dana dit qu'à partir du moment où il transpose cette pièce dans l'époque contemporaine, et bien justement, à notre époque, beaucoup de femmes tiennent des postes importants dans la politique.
C'est bête de dire ça au théâtre.
C'est son
c'est
idée.
Bête de dire ça pour
oui, mais pas. Après, par exemple, Braunschweig avait fait la même chose sur Britannicus en donnant le rôle à non, d'ailleurs, Dominique Blanc ne jouait pas un homme, elle jouait Agrippine, mais...
Mais en costard.
Mais en costard, mais... et c'est elle qui dominait la représentation, c'est un peu autre chose. Mais elle représentait une femme politique d'aujourd'hui, mais elle était magistrale.
Là, mais là, Martine ils Chevalier sont pas... en César, ça apporte quoi?
Et alors là, Martine on Chevalier en César, moi je suis d'accord avec vous. Martine Chevalier, c'est une tragédienne à l'ancienne qui peut être magnifique, qui a un phrasé notamment absolument somptueux, comme n'en ont plus les jeunes actrices d'aujourd'hui, mais elle n'est pas à sa place. Voilà.
Armelle.
Non, ben j'ai rien à ajouter parce que j'étais dans le même sentiment que Jacques Nerson en allant voir Jules César. La veille, nous avions vu La Puce à l'oreille, en plus. Bon, donc on était dans la même troupe, dans la même maison au fond. Et j'allais avec beaucoup d'appréhension. J'ai écouté sagement, j'ai essayé de comprendre, mais ça n'apporte rien. Il n'y a pas une idée de mise en scène. Offrir des rôles d'hommes à des femmes, si c'est pour cette toute pauvre petite raison qu'aujourd'hui nous avons des femmes politiques encore heureux, c'est pauvre, quoi. Ça n'agit pas. Et moi, le sentiment que j'ai eu, malgré des acteurs au fond impeccables, qui font ce qu'on leur demande, qui sont disciplinés, qui ne se rebellent pas, qui ne se sont pas révoltés, moi j'ai eu tout au long de ces deux heures le sentiment qu'ils étaient malheureux pour la plupart. On sent qu'ils ont...
Ça pour le coup, on ne sait pas, c'est des interprétations.
Mais si,
ça c'est de la coulisse, c'est pas ce qu'on voit sur le plateau.
Bon, en tout cas,
si, on le sent, on le comprend, Jacques.
Ouais,
si,
on
le comprend,
c'est Jules César de Shakespeare et c'est au Vieux Colombier jusqu'au 3 novembre. Dernier grand classique de la soirée, c'est Le Misanthrope de Molière, mise en scène à l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville par Alain Françon avec Gilles Privat en Alceste, Marie Vial, que j'aime beaucoup en Célimène, Pierre-François Garrel en Philinte, Régis Royer en Oronte, Dominique Valadier, la grande Valadier en Arsinoé, et puis d'autres comédiens encore. Alain Françon, plus familier d'ailleurs d'Ibsen, de Strindberg, de Handke ou de Bond, monte pour la première fois un Molière, et pas n'importe lequel, Le Misanthrope, dont d'ailleurs Odile Quirot écrit dans le programme « Comment rester humain dans un monde cynique? Faut-il se retirer de la compagnie des hommes? Ce souci qui taraude l'orgueilleux et exigeant Alceste va comme un gant à Alain Françon. » Moi, je ne savais pas que Françon était si misanthrope. Bref, cette pièce de 1666, là encore Jacques y était, le metteur en scène la déplace de nos jours, une fois de plus, dans ce qui pourrait être l'antichambre d'un ministère ou de l'Élysée. Et c'est un peu la loi de toutes les pièces de ce soir, hein, des classiques. Ils sont tous transposés, réaménagés et souvent actualisés. Armel.
Mais là, pour moi, c'est un spectacle accompli, parfait. On est devant une perfection de spectacle, un Alceste Gilles Privat qui n'est pas un ancien jeune premier, qui est un homme au physique pas forcément séduisant au premier abord et qui est extraordinaire. Tout le monde est magnifique dans ce spectacle. On écoute.
Mais vous comprenez comment Alceste peut séduire trois femmes, cet Alceste-là?
Ben oui, il a un charme fou. Il a un charme fou, Privat. Il a un charme fou. Il est pas, oui, il est pas beau. C'est pas Samuel Benchetrit, mais il est je comprends que Marie Vial.
Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans, Samuel Benchetrit?
Non, mais elle me dit qu'il est pas beau.
Non, je dis qu'il joue de manière grotesque et burlesque aussi. Moi, je l'ai pas trouvé.
Grotesque, c'est beaucoup dire quand même.
Mais non, parce que, ben oui, parce qu'il est un peu ridicule, Alceste, à force de s'énerver, à force de vouloir tout refuser. Il est ridicule. Ben,
d'être surpris excessif.
Mais là, c'est monté d'une façon tellement, tellement limpide et simple que moi, j'étais aux anges.
Et Fabienne Darche, est-ce qu'elle était aux anges?
Moi, je suis un tout petit peu partagée, mais en étant plutôt du côté d'Armel quand même. Mais j'aime énormément, en général, le travail d'Alain Françon, que je suis depuis longtemps. Je trouve que c'est...
Et qui, encore une fois, fait ses débuts chez Molière.
Voilà, c'est son premier Molière. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu désarçonnant, je dirais, quand même, dans cette mise en scène. Alors, c'est vrai que ce qui est toujours le grand plaisir avec Alain Françon, c'est qu'on sent qu'il y a eu une lecture vraiment en profondeur de la pièce et un travail, une réflexion sur les personnages, et notamment pour sortir des clichés des personnages, qui est quand même assez éblouissant. Et c'est vrai que le fait de choisir Gilles Privat, cet acteur qui dégage la douceur même, justement, pour jouer le misanthrope, c'est déjà très intéressant, je trouve, parce que déjà, on n'est pas dans la trabilaire. Gilles Privat, c'est vraiment, oui, quelqu'un qui a de la bonhomie, qui a de la douceur, et voilà, et qui est effectivement un sens sens du burlesque. Donc déjà, on voit tout de suite qu'il veut décaler. On le voit aussi à travers la Célimène jouée par Marie Vial, qui est effectivement une actrice vraiment formidable, et qui la joue comme une jeune ambitieuse d'aujourd'hui qui devrait se défendre dans un monde, justement, un monde où l'entre-soi est devenu roi. Donc ça, ça résonne beaucoup avec aujourd'hui. Et où elle doit... bon, c'est Marie Vial, en plus, c'est une actrice qui est grande, que Françon met en plus sur des talons, donc elle en impose, hein, attention. Et on voit que c'est une très jeune femme, douée, intelligente, brillante, belle, qui doit, malgré tout, faire avec le monde dans lequel on est, qui est un monde impitoyable. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes, mais... Comment dire, la représentation gratte un peu. Je ne sais pas comment dire. J'ai pas plongé dedans en même temps, comme voilà, de manière béate.
Fabienne Pascoe.
Moi, je me suis beaucoup ennuyée et en voyant ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis dit, bon, zut, ça doit faire au moins la 30e. Ça doit faire au moins la 30e fois que je vois le misanthrope. C'est vrai que dans le métier, on le voit beaucoup. Mais je n'ai rien appris.
La dame de chez Maxime aussi.
Un peu moins, quand même. Mais ça ne m'a rien apporté. Autant, par exemple, j'avais été conquise l'année dernière et la mise en scène de Peter Stein n'était pas exceptionnelle, mais par l'interprétation de Lambert Wilson, qui en faisait des kilos, qui avait un romantisme noir, qui était sauvage, qui apportait quelque chose de violent à cette histoire d'amour. Autant là, pas du tout antipathique. Là, Gilles Privat, j'ai pas compris ce qu'il jouait. Il n'a pas l'air du tout, il n'y a pas d'histoire d'amour. Ça ne tient pas du tout entre Marie Vial et lui. On ne sent rien. On sent que la vanité, et ça c'est peut-être intéressant, la vanité du langage, des personnages, la cour, les courtisans qui parlent à n'en plus finir. À l'image de cette première scène interminable entre Alceste et Philinte, et on se dit que le pouvoir absolu de Louis XIV, il les a condamnés à parler, non plus que ça. Donc ils ratiocinent ensemble. C'est la seule chose que j'ai trouvée un peu intéressante dans la mise en scène, sinon un ennui crapoteux.
Jacques,
je suis de l'avis de Fabienne Large.
Bon.
C'est-à-dire que je suis partagé. À la fois, je trouve le spectacle d'une intelligence extraordinaire.
Cette intelligence,
elle se trouve notamment dans le jeu des comédiens. C'est vraiment le mérite de Françon de savoir diriger les comédiens de façon parfaite et, encore une fois, de leur communiquer une grande intelligence du texte. J'ai entendu la pièce comme rarement. Mais en même temps, Gilles Privat me gêne un peu parce qu'il donne très bien le côté naïf d'Alceste et ce côté existe. Mais effectivement, il manque un peu de séduction. Et surtout, on ne sent aucun désir entre Alceste et Célimène. Or, c'est quand même l'un des nœuds de la pièce. C'est un spectacle cérébral, mais absolument pas charnel. Et ça fait vraiment cruellement défaut. Mais on a parlé des comédiens, je voudrais juste citer les Petits Marquis.
Ils sont remarquables.
Et c'est très rarement bien réglé, vu la scène des Petits Marquis.
Et le Philinte de Pierre François.
Et le Philinte. Et
même Oronte n'est pas ridicule. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Et bien, ce Misanthrope de Molière, vous pouvez le voir à l'espace Cardin, où est pour l'instant délocalisé le théâtre de la ville. Allez, quelques modernes. Un peu plus vite, la pièce aux 6 Tony Awards arrive en France. C'est ce que claironne le Théâtre Montparnasse pour annoncer Rouge, la pièce du scénariste de cinéma John Logan sur le peintre américain Mark Rothko, dont la version française est signée Jean-Marie Besset et la mise en scène Jérémy Lippmann avec Nils Arestrup dans le rôle de Rothko, à qui dans le New York de la fin des années 50, le restaurant Four Seasons vient de commander de grandes peintures murales. Alexis Moncorgé, il joue Ken, son assistant qui est chargé de tout faire, mélanger les peintures, et qui accuse le grand artiste de se vendre pour le fric. Je sais que Fabienne Darche ne l'a pas vu. Armelle.
Ça vaut vraiment la peine pour les deux acteurs qui sont absolument extraordinaires. Arestrup, vous connaissez. Là, ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas comme l'année dernière où il imitait physiquement Churchill.
Enfin, la pièce
était
pas bonne.
Il était déjà assez impressionnant. Là, il ne cherche pas du tout à ressembler à Rothko, il essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'un grand artiste qui se rend compte qu'il s'est laissé berner, qu'il s'est laissé avoir par la vanité, qu'il a accepté un contrat, toutes ces grandes toiles qui vont être dans un restaurant, et puis il comprend que personne ne les regardera, et il a une haute idée presque mystique de son art, et il enseigne en même temps qu'il martyrise parfois son jeune aide, qui est Alexis Moncorgé, que j'ai trouvé remarquable, qui a mûri, qui a grandi, sans doute au contact de cet immense acteur qui est Arès Trupp. Et on passe une très bonne soirée grâce à cela. Je trouve pas la pièce extraordinaire.
Je trouve pas la pièce extraordinaire. Non, je trouve même la pièce assez mauvaise. C'est un ramassis de poncifs sur l'art. Mais
qu'est-ce que vous aviez ce soir-là?
Qu'est-ce que
vous êtes arrivé?
Je sais pas. Non, la pièce est vraiment pas très bonne. Elle est comme si les Américains en font des centaines chaque année. Et puis, Arès Trupp, qui est un acteur que j'adore, qui est un de nos plus grands acteurs, c'est incontestable. Mais là, je l'ai pas trouvé très bien dirigé. Il crie du début à la fin. Mais enfin, cette pièce, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on voit, on voit un vieux con à qui on met, enfin son assistant, met à peu près 1h15 pour lui dire que c'est un vieux con. Bon.
Ça ne se situe pas là, Jacques. Le débat n'est pas là.
Il a accepté de faire des toiles dans un restaurant, puis finalement, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui mangent dans le restaurant. Quelle horreur! Et donc, du coup, il reprend les toiles. Donc, réellement raconté comme ça, et comme c'est raconté dans la pièce, c'est stupide. C'est vraiment pas une bonne pièce, c'est très ennuyeux.
Fabienne?
Non, c'est pas raconté comme ça dans la pièce. Ça raconte le travail d'un peintre, son rapport à l'art, son rapport à la couleur, son rapport au tableau, son rapport
c'est
à la notoriété.
C'est pas que des clichés.
Notamment, il y a une comparaison avec Pollock, qui était son ami, dont il est jaloux, il y a une rivalité. Et bon, tout ça, c'est bien à entendre.
On l'entend comme vous. Il a regardé ses dossiers.
Non. On apprend des choses quand même. Puis c'est bien d'apprendre qui était Rothko. C'est bien d'apprendre cette histoire du Four Seasons.
Il vaut mieux prendre un bouquin pour apprendre qui était Rothko.
Mais c'est bien aussi de le passer. Le théâtre, c'est aussi fait pour transmettre. C'est aussi fait pour apprendre. Que le théâtre s'intéresse à des artistes peintres, je trouve pas ça nul du tout.
C'est pas la première fois.
Et alors surtout, c'est l'art de Nils Arès Trupp. On a l'impression qu'il danse en scène, qu'il improvise, il passe d'un lieu à l'autre. On a l'impression que Alexis Moncorgé est obligé de le suivre, on a l'impression qu'il invente sans arrêt, qu'il cherche. Et voir un acteur comme ça aux prises avec son rôle, c'est pas un chef-d'œuvre en tout cas, mais c'est une très belle soirée pour
ça. Si vous voulez voir danser Nils Arès Trupp, c'est donc au Théâtre Montparnasse dans Rouge de John Logan. Palace, la série culte qui a fait les beaux soirs de la télé il y a 30 ans, arrive au Théâtre de Paris. Sous la baguette de son créateur Jean-Michel Ribes, qui s'est accoquiné avec Jean-Marie Gouriot. Il est vrai qu'entre-temps ont disparu Topor, Volinsky ou encore GB, comme ont disparu la plupart des acteurs qui figuraient au générique. Souvenez-vous, Jacqueline Maillan, Darry Cole, Claude Pieplus, Jean Carmet, Pierre Mondy, René Saint-Cyr, Marcel Philippot, Philippe Corsan, les deux qui jouaient le client et le directeur de l'hôtel. Évidemment, si on retrouve le palace, sa porte-tambour, sa conciergerie, un bel escalier d'ailleurs, mobile. Si on chante toujours, en tout cas moi, Panerson, palace, moins de stress, plus de strass. Si la folie demeure, la troupe de 24 comédiens a rajeuni, sauf Philippe Magnan et Philippe Vieux, qui font de la résistance. Et quant au rôle de Lady Palace, qui était incarné par Valérie Lemercier, ça on s'en souvient, eh bien, maintenant, il est joué par Joséphine de Meaux, et c'est au Théâtre de Paris jusqu'au 5 janvier. Fabienne?
Moi, j'ai bien aimé le spectacle parce que c'est quelque chose de très différent. C'est l'esprit un peu Primesautier, politiquement incorrect, résistant.
Surtout absurde, je trouve.
Absurde,
plus
tout
le rire
à fait. Vous évoquiez l'escalier. L'escalier tombe en panne, par exemple. C'est quand même complètement dingue, un escalier qui tombe en panne. Donc, il arrive à trouver toujours ce qui ne va pas, ce qui coince et il nous fait nous évader. En même temps, ce qui peut y avoir parfois d'un peu traditionnel pour ceux qui ont aimé cette série de 1988 sur Canal+, il y a l'arrivée des immigrants maintenant.
Alors ça c'est nouveau, hein. C'est des sketchs qui ont été ajoutés au palace originel.
Voilà, tout à fait. Donc,
notamment toute la fin du spectacle.
Exactement, il y a un côté gilet jaune et tout ça. Donc moi ce que j'aime c'est qu'il nous sort de nos ornières et en plus avec des ballets que je trouve très très bien réglés, ça chante, ça danse. Moi j'ai passé une bonne soirée.
Les gens qui étaient là le soir étaient aux anges. Hein.
Voilà, et puis c'est différent, ça nous fait penser, rêver à autre chose, on sort des ornières traditionnelles de ce qu'on nous montre au théâtre.
Jacques.
Et ça fait réfléchir.
Bon, alors j'ai pas réfléchi, je suis probablement tombé dans les ornières, je sais pas, mais moi je suis désolé.
J'ai pas un problème avec Jean-Michel Ribes, Jacques.
C'est quelqu'un que je trouve très sympathique, intelligent, intéressant.
Vous arriverez,
c'est-à-dire la seule chose. Ben, c'est-à-dire, j'aime pas ce qu'il écrit, c'est vrai. C'est quelqu'un dont l'humour ne me touche pas. Lui-même, c'est un personnage sympathique, encore une fois.
Cet humour absurde ne vous plaît pas.
Non,
vous l'aviez pas aimé.
J'avais pas adoré la série. Et là, passer, c'est quelque chose comme 2h-10, la durée du spectacle.
Oui, c'est ça, c'est 1h45.
À passer tout ce temps à voir des sketchs alignés les uns après les autres. Non, moi, j'aime les pièces de théâtre, développer des
histoires. Des personnages récurrents qui reviennent.
Non, on peut pas dire que ce soit des personnages, ce sont des silhouettes. Non, ça ne m'amuse pas beaucoup et non, j'ai pas passé un très bon moment. Les anges dont vous parliez étaient pas là, ils étaient restés chez eux.
Armelle.
Ah moi, je n'avais jamais vu. Alors je sais pas ce que.
Comment ça, la série
88, ben non, j'allais au théâtre.
T'allais au théâtre.
Puis je travaillais dans un quotidien, donc j'ai jamais vu.
Ah ça c'est drôle ça.
Palace. J'avais entendu
enfin,
parler.
Enfin les pubs, vous les connaissez.
Ah ben ça les pubs, oui. Et je les reconnais d'ailleurs dans le spectacle. Mais alors
je l'aurais.
J'ai trouvé qu'effectivement il y avait c'est cossu, c'est une belle production avec des beaux costumes, des acteurs, du mouvement, des chorégraphies, toujours un peu trop la même chorégraphie, pas de musique en direct, de la musique enregistrée. Un jeune homme que je trouve formidable qui s'appelle Gwendal Marimoutou.
Ah oh, mais il y en a plein, si on se met à les citer tous.
Mais celui qui revient
celui qui
temps,
chante, il est formidable.
Il chante vraiment en direct, il est là, il est formidable. Mais pour le reste, franchement, les textes m'ont consterné pour la plupart, mais consterné.
Tu n'as pas été sensible à ce côté surréaliste?
Ah non, non. Alors il paraît que c'était drôle autrefois, comment se gratter le nez, comment mettre la crotte de nez sur sa main, comment l'écrabouiller, je sais pas quoi. Il y a tout, il y a 20 minutes là-dessus.
Mais c'est quand ils achètent des rêves, quand tout ça...
Mais enfin...
Palace au Théâtre de Paris. Ah allez, rapidement, si on veut faire quelques conseils, on reprend ce spectacle qui était à Avignon, à la Fabrica, Lewis versus Alice, variation rêverie. D'ailleurs, parfois très personnel, autour de Lewis Carroll, qu'on doit à Masha Makeyev, la patronne du Théâtre de la Criée à Marseille. Lewis Carroll, poète énigmatique, indocile avec les conventions victoriennes, collectionneur bizarre, excentrique, clergyman d'Oxford, photographe, logicien, spirit célébré par les surréalistes. Voilà, et on entend certains des textes fameux de Lewis Carroll, dont, bien sûr, Alice au Pays des Merveilles. Ça avait été donc créé à la Fabrica à Avignon. Il est au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis jusqu'au 13 octobre, et puis en tournée jusqu'à la fin de l'année, Angers, La Roche-sur-Yon, Toulon, Marseille, bien sûr, Bayonne, Nice et Lyon, même en janvier 2020. Dites-moi, en une poignée de minutes, pourquoi il faut y aller ou pas. Fabienne Darge.
Ah, alors est-ce qu'on peut répondre de manière aussi tranchée à la question?
C'est une question de temps, là. C'est pas une question de nuance. Hein.
Mais c'est un très, très, très beau livre d'images pour moi. C'est-à-dire que visuellement, c'est absolument magnifique. Masha Makeyev, c'est vraiment devenue une plasticienne de la lumière, des objets. Elle sait faire parler une atmosphère à partir de toute la matière visuelle. Donc c'est très, très beau. Mais pour moi, le fil dramaturgique est très relâché. Et pour dire les choses un peu simplement, j'ai un peu rien compris. C'est-à-dire qu'elle s'inspire.
Oui, parce qu'il y a des moments où elle parle de sa propre enfance, hein, aussi dans ce spectacle. Tout ça est mêlé. Hein.
Non, c'était dans le spectacle précédent.
Ah, si, là, mais... je trouve que...
Dans le petit livre.
Oui, mais
si on lit le petit
pas
livre.
Vraiment dans le spectacle.
De temps en temps, on repère. Mais
bon, c'est surtout qu'elle part de plusieurs textes de Carole, pas seulement d'Alice.
Oui, la chasse au snark.
Et honnêtement, on a beaucoup de mal à suivre. Voilà, mais il y a des choses merveilleuses. Rosemary Stanley est merveilleuse, comme toujours. Elle chante magnifiquement.
Un mot, Fabienne.
Moi, je me suis laissée guider dans ce théâtre admirable, hein, puisque elle a même maintenant, vous parliez de ses talents de plasticienne, mais elle a même des lumières dessinées par Bellorini.
C'est Bellorini qui les fait, les lumières,
de dessin. Ouais. Oui, oui. Il y a des ambiances à la Bob Wilson. C'est totalement onirique.
Avec une musique pop gothique.
Voilà. Moi, et puis je trouve, moi, j'ai bien compris ce parallèle entre l'auteur Lewis Carroll et le vrai personnage qu'était Lewis Carroll.
Et vous compreniez ce que disaient les comédiens, en particulier notre ami.
Et le dédoublement même des deux Alice. Moi, Alice, ça a toujours été un personnage qui m'était particulièrement antipathique et auquel je ne comprenais rien. Et
la
là,
pauvre, qu'est-ce qu'elle vous a fait ?
Mais je sais pas, je comprenais pas. Et là, je suis rentrée dans le terrier avec elle et je trouve qu'il y a, c'est bourré de nostalgie, de mélancolie et que c'est un magnifique hommage à l'enfance.
Un mot, Jacques ?
J'ai pas vu le spectacle, j'ai quitté Avignon avant sa création.
Moi, je ne l'ai pas revu depuis Avignon, mais à Avignon, j'étais bien triste parce que j'étais exactement dans le même sentiment que Fabienne Darche, c'est-à-dire que il y a des moyens, il y a de l'imagination, il y a le sens de la belle image, Mais d'abord, c'est déjà énorme. Je ne comprenais rien. Mais non, ça ne suffit pas au théâtre. On a envie de comprendre ce dont il est question. Moi, il y a certains comédiens que je ne comprenais pas même. Oui. Et puis, bon, c'est vrai que la chanteuse merveilleuse nous réconciliait, mais moi, je dirais, puisqu'il faut dire oui ou non, je dirais non, n'y allez pas.
Lewis versus Alice.
Moi, je dis oui.
Lewis Carroll, Masha Makeyev, vous trouvez sur le site de l'émission toutes les villes où le spectacle va tourner. Allez, on termine par un conseil, un coup de cœur, quelque chose que vous avez vraiment aimé au théâtre. On va commencer évidemment avec notre nouvelle venue, Fabienne Darge.
Ah bah écoutez, puisqu'on commence par moi, alors un conseil assez massif, il faut bien
massif.
Dire. Massif. Oui, assez massif. Parce
donc
qu'il
un
s'agit...
ordre, quoi, en gros.
Non, assez massif en termes d'amplitude, disons, c'est-à-dire un conseil pour le Festival d'automne. Voilà, c'est le Festival d'automne à Paris et dans la région parisienne. C'est quand même une manifestation.
À tout le Festival d'automne.
Globalement.
Ah oui.
Je pense que c'est quand même une manifestation qu'il faut suivre, qui est quand même toujours pointue, excitante, intéressante. Et plus particulièrement, alors en ce moment, le spectacle de Thiago Rodriguez au Théâtre de la Bastille, d'après, c'est pas d'après Anna Karénine, c'est un spectacle sur des personnages dont la vie est traversée par le roman de Tolstoï, et c'est quand même d'une finesse et d'une délicatesse rare.
L'autre Fabienne, c'est-à-dire la Pasco, quel
voilà.
conseil
Alors,
elle va nous donner ?
La Pasco conseille d'aller aux Gémeaux jusqu'au 13 octobre, voir
à Sceaux,
voir la dernière création de Thomas Ostermayer qui s'appelle Abgrund. C'est fait par une jeune dramaturge que personnellement je connaissais mal, Maja Zade. Et ça raconte une histoire horrible que je ne révélerai pas dans le milieu bobo berlinois et comment on vit quelque chose de terrible quand on est branchouille à la mode et comment les parents peuvent surmonter un deuil terrifiant. Et c'est monté par Thomas Ostermayer avec un humour, une ironie, une cruauté et en même temps une tendresse. C'est un magnifique spectacle, ça s'appelle Abgrund et c'est au Gémeaux jusqu'au 13 octobre.
Le conseil d'Armelita.
Alors un spectacle merveilleux, fait dans l'amour du public, pour le public, en grand progrès par rapport au premier texte, un texte de Simon Abkarian, Électre des bas-fonds. Ah, il continue...
Chez Mnouchkine.
Voilà, alors c'est au Théâtre du Soleil pendant que...
Le premier n'était pas totalement convaincant.
Non, mais je vous dis que celui-là est remarquable. Mais c'est vrai, je l'ai dit moi-même.
Mais je vous crois.
En plus, moi j'avais trouvé des qualités à celui qui se passait à Marseille là. Mais Électre des bas-fonds, c'est formidable parce que l'écriture est formidable, la joie de la troupe dans ce bel espace du Théâtre du Soleil, la malice, l'intelligence, le mélange, c'est hétérogène, ce sont pas des spectacles purs, c'est pas une écriture pure, il y a des scories, il y a des même peut-être des faiblesses parfois, mais peu importe. On est vraiment porté par un spectacle extraordinaire et la joie qui ressemble beaucoup à celle du Théâtre du Soleil, à ses débuts d'ailleurs. C'est merveilleux. Électre des bas-fonds, ça vient de commencer au Théâtre du Soleil.
Et on commence, en fait, c'est la parité idéale pour moi, trois femmes critiques pour un seul homme. On termine par le conseil de l'homme Nerson.
Ben, je prends un petit peu d'avance sur le programme du prochain masque. Je voudrais recommander La vie de Galilée montée par Claudia Stavisky
avec Monsieur Toretton.
Avec Toretton. Ça ne se joue plus à Paris, mais
c'est en tournée
je
partout,
conseille
je crois,
hein. aux Toulonnais et aux Marseillais de s'y précipiter. Puis on en reparlera donc la prochaine fois. Très beau spectacle.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume France Inter. .fr. Merci beaucoup Fabienne Darge, Armel Elio, Fabienne Pasco et malgré tout Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam à la technique ce soir au théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie, il y avait Bernard Laniel, Nadège Antonini, ainsi que Célia Dufour. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le jeudi 10 octobre au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.